J'espère que ma voix pourra porter parce que ce soir elle est faible. Il y a un verset qui dit La Elohim et Amenou Bekol, mais ça c'est mon cher Benou. D'abord je voudrais dire que j'ai un peu de perplexité à cause de l'heure. Si nous étions à Paris, je dirais à cause du dernier métro. Mais ceux qui seront obligés de partir avant à cause du dernier autobus, c'est pas grave. Maintenant, si vous voulez prendre un taxi après, vous pourrez téléphoner pour appeler. Alors, ce que je me proposais de faire, c'est, en écoutant l'introduction de Benou, c'est de prendre un certain nombre de dimensions concernant la personnalité et la vie de mon cher Benou, en prenant peut-être l'épisode antérieur, lorsque la première fois Moïse a dû quitter l'Égypte. Et ça nous permettra peut-être d'avoir un certain nombre de facettes sur le problème que nous avons étudié. Et donc, c'est pas du tout une étude spécifique que je vais faire, nous n'aurions pas le temps, mais une sorte d'atmosphère autour de ce que nous venons d'écouter et d'apprendre. En particulier, je me proposais, de façon plus systématique, d'étudier le Midrash qu'avait cité Beno tout au début de son exposé concernant le fait que c'est la même date qui est celle de la mort de Moïse et de la naissance de Moïse. Ce Midrash a été expliqué par le Maharal en particulier dans le livre qu'il a consacré à Purim et qui est Or Hadash. Et je vais me borner à un rappel succinct de ce Midrash de mémoire et à poser une question à ce sujet. Il y a quand même une certaine invraisemblance dans la manière dont le Midrash formule le fait que lorsque Aman avait jeté le sort pour essayer de trouver une date qui serait défavorable dans le sens de la mentalité magique, de la conscience magique qui définissait un peu la mentalité religieuse de la perte de ce temps-là. Et puisqu'il s'agit effectivement d'une sorte de conduite de sorcellerie à la limite, petite parenthèse qui est connue aussi dans certains milieux mystiques juifs, lorsqu'on veut une réponse à une question dont on ne connaît pas la réponse, alors on se sert un peu de cela. On prend un tanakh et on l'ouvre et on essaye de lire un verset dans cette page qui pourrait indiquer une amorce de réponse. Pour vous dire qu'il y a toujours des formes de recoupement entre les conduites mystiques lorsqu'elles débordent carrément du côté de la conscience magique ou même lorsqu'elles sont transfigurées ou non pas sacralisées mais sanctifiées dans la perspective de la Torah. Je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse mais je la referme. Et effectivement, le Midrash explique que Aman, et je me base sur l'explication du Maharal, cherchait un jour défavorable pour Israël pour pouvoir le fixer comme jour du décret de persécution de ce qui, à l'époque déjà, était dans son projet la solution finale que finalement nous avons connue de notre temps. En tout cas, une tentative de solution finale. Et chaque jour de la semaine, du mois, dans l'année, il y avait un mérite particulier qui protégeait les enfants d'Israël. Le Midrash dit qu'il a été heureux de découvrir qu'il y avait un jour qui, semble-t-il, apparaissait comme néfaste, le 7 Adar, parce que c'était le jour, le mois de Adar, pardon, parce que c'était le mois de la mort de Moshe Rabbeinu. Et le Midrash ajoute qu'il ne savait pas que c'était aussi la date de la naissance de Moïse. L'essentiel de l'explication du Maharal, c'est de mettre en évidence cette dimension d'éternité qui entre dans l'histoire d'Israël avec Moshe Rabbeinu, et il fait allusion au fait que nous avons là le cas limite du tzaddik qui emplit complètement les jours de sa destinée de vie. Et le thème général de cet enseignement, c'est que les tzaddikim vivent tout le temps qui est prévu dans leur projet de destinée. En particulier à propos d'Abraham, Rashi cite l'enseignement que lorsqu'il y a Vaïgvar, pour désigner la mort d'un tzaddik, l'expression de Gvia, on pourrait traduire en français expirer et pas mourir, vraiment, ça veut dire qu'ils accomplissent complètement le temps de destinée, de leur destinée terrestre. Et il met en évidence que ces 120 années parfaites, absolues, comme ils avaient pu, du premier jour au dernier jour, du 7 Adar de la naissance au 7 Adar du moment où il quitte l'histoire terrestre. Et alors, l'invraisemblance, peut-être le mot est un peu trop accusé, c'est comment Aman et ses sorciers savent cela, que c'est dans le mois de Hadar que est la date de la mort de Moïse, et ils ne savent pas la chose corollaire que Tinoch de Vera connaît, que n'importe quel enfant de Talmud Torah connaît. Vous allez me dire, Aman n'était pas du Talmud Torah, mais comment savait-il l'autre enseignement que c'est aussi de cet Hadar? Le Maharal explique que la conception du temps propre à toutes ces traditions en dehors d'Israël, c'est un temps où il y a un commencement et une fin. Et à partir du moment où il y a une fin, la fin est irréversible. Et qu'il ne pouvait pas percevoir ce qui définit le temps d'Israël, que ce n'est pas du tout un temps qui entre dans cette perspective d'un commencement qui mène à une fin. Et je crois qu'on peut le comprendre par un diagnostic ou une analyse de ce qui s'est passé vraiment dans l'histoire. Et comme nous avons étudié tout à l'heure, ce dévoilement de preuves a posteriori, nous sommes privilégiés parce que nous sommes à la fin. Non, ce n'est pas une fin. Mais je veux dire, nous sommes après longtemps que cette histoire ait commencé, l'histoire d'Israël, nous sommes privilégiés par cette preuve a posteriori qu'effectivement, il y a eu une dimension d'éternité de l'identité d'Israël. Il y a un commencement, c'est les Haot, mais cette force qui apparaît, cette force d'identité qui apparaît, n'est pas donnée à un temps qui se referme, où il y aurait une fin, et puis c'est fini. Les nations, lorsqu'elles prennent conscience de leur temps d'histoire, en prennent conscience dans cette formule que finalement on attribue à Malraux, mais je crois que c'est Malraux qui l'a dit, lorsqu'il dit « nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels ». C'est-à-dire la conscience d'une histoire qui se développe, d'après le Midrash, selon le temps du soleil, une naissance, une apogée, un déclin, une disparition, et c'est une nouvelle année qui remplace l'année précédente. Il y a un mythe solaire, si j'ose dire, commencement, apogée, fin. Et la raison pour laquelle Aman ne prête pas attention au fait qu'en réalité, c'est la même date qui était celle de la naissance et celle de la mort de Moïse, ou de la disparition de Moïse, vient de ce qu'il est conditionné dans sa mentalité spirituelle même, l'hypothèse qu'il y aurait un temps d'histoire pour une manière d'être homme différente des nations, et qui serait un temps où il n'y a pas de fin, et cette dimension d'éternité, les maîtres de la Kabbalah l'ont exprimé en attribuant à la présence de Moïse dans l'histoire d'Israël la mida de Netzar, qui est rattachée à Moïse, et Netzar, c'est à la fois le triomphe et l'éternité. Effectivement, tout ce que les Avot ont mis dans l'histoire prend une dimension d'éternité dès que Moïse a touché cette identité d'Israël. Netzar, Israël, Loïchakel. Mais la force de Netzar, c'est est attribuée à Moshe Rabbeinu. Voilà l'explication que je voulais proposer. Bien entendu qu'au point de vue de connaissance informative, Aman connaissait aussi le fait que, disons, la civilisation de Perse, la culture de Perse de ce temps, rouméniste de ce temps, connaissait le fait que c'était la même date du recommencement, le 7 Adar. Mais ça ne pouvait pas avoir une signification qu'ils pouvaient retenir. C'est en dehors de leur conditionnement de mentalité, il faudrait penser à un temps d'éternité dont seule l'identité d'Israël a expérience dans le temps terrestre. Je ne sais pas si j'étais suffisamment clair, mais je vous donnais un exemple, une analogie. C'est l'explication des rêves du Pharaon par Joseph. Lorsque nous étudions l'explication des rêves du Pharaon par Joseph, on s'aperçoit à quel point c'est facile de les expliquer. Comment se fait-il que les sages d'Égypte n'arrivaient pas à envisager, ne serait-ce que sous forme d'hypothèse retenue, parce que hypothèse intellectuelle, bien entendu, ils pouvaient l'envisager, qu'il pouvait s'agir d'une sorte de rêve, d'obsession, d'idée fixe, de perplexité, de crainte, d'un dérèglement de l'économie. Si on comprend ce que le Midrash explique à propos de l'explication de Joseph sur les rêves du Pharaon, c'est très clair et l'explication est immédiate, il rêve quelque chose d'impensable pour les sages de l'Égypte, que l'économie égyptienne puisse se dérégler. Les 7 années d'abondance, ensuite les 7 années de famine, dans les deux dimensions économiques de cette civilisation, labourage et pasturage, comme disait Stupiki, c'est-à-dire les épis de blé et les vaches, et le bétail. Et alors il y a un conditionnement qui me semble, avant la lettre, d'être un peu du type de la science économique marxiste orthodoxe. À partir du moment où on a établi les lois d'un plan quinquennal ou septennal, peu importe quel, l'idée que ça peut se dérégler par le facteur d'indifférenciation de la liberté humaine est une idée hétérodoxe. Un marxiste orthodoxe n'acceptera jamais une explication de ce genre. Ça ne veut pas dire que l'hypothèse intellectuelle ne veut pas l'effleurer, mais ça a tout de suite défini comme révisionniste, capitaliste, impérialiste, sioniste. C'est-à-dire qu'il y a un conditionnement de mentalité qui empêche de voir une vérité et de percevoir une vérité simple. Je crois que c'est un peu de cette manière qu'on pourrait évacuer cette invraisemblance apparente qu'il y aurait dans ce midrash. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne savait pas que le 7 Adar était aussi la date de la naissance de Moïse, inutile de rappeler l'analyse. On ne peut le comprendre dans sa portée hébraïque qu'en le pensant en hébreu. Mais ces autres traditions qui réfléchissent sur l'histoire d'Israël, ils réfléchissent ou la pensent à la manière de leur propre conditionnement intellectuel et spirituel et n'arrivent pas à percevoir cela, ce que Israël vit, même si à l'échelle individuelle, beaucoup de penseurs d'origine juive, mais qui pensent au type de la civilisation universelle, projettent sur l'histoire d'Israël aussi ce schéma du temps qu'il y a un commencement, une apogée, un déclin et une fin. A été le Midrash dit, non, le rythme du temps d'Israël n'est pas celui du soleil, il est celui de la lune, d'un perpétuel renouvellement qui est annoncé dès la première mitzvah donnée par la Torah de Moïse, « Achodesh azeh lachem rosh chodashim » et c'est ce principe du renouvellement de la lumière qui est perçu dans les cycles lunaires qui va s'opposer, en complémentarité, mais qui va s'opposer au principe de l'année solaire qui, elle, et le modèle des civilisations qui se succèdent, je repense à Malraux, à un certain moment elles savent qu'elles sont mortelles et elles pressentent la fin de leur, comme disait Splinger, la fin de l'Occident par exemple, et le pressentiment que quelque chose d'autre va remplacer. Eh bien, le temps d'Israël n'a jamais été vécu dans cette perspective d'un calendrier où il y aurait un jour de commémoration de fin d'année. C'est très caractéristique de voir que dans tous les calendriers, vous avez un commencement de l'année et une fin de l'année. Par exemple, le calendrier auquel nous sommes habitués, le calendrier français, disons, bien, vous avez le 1er janvier, c'est le commencement de l'année, mais le 31 décembre, c'est la fin de l'année. Il y a un calendrier qui fait exception, c'est le calendrier hébraïque, où il n'y a aucun jour de commémoration d'une fin d'année. Et au contraire, super luxe, nous avons 4 Rosh Hashanah, 4 commencements d'année, et aucune fin d'année. C'est-à-dire, il y a là vraiment une perception du temps. L'importance de l'enseignement du Maharal à ce sujet est de montrer que cette dimension d'éternité entre avec mon cher Abel. C'est-à-dire, nous pourrions penser l'histoire d'un peuple d'Israël qui ne serait que un peuple dont l'histoire a commencé avec Abraham, Israël et Jacob, et il y aurait une fin de l'histoire d'Israël. Je crois que ça peut nous aider à reconsidérer les structures de l'histoire d'Israël d'une toute autre manière, d'une manière traditionnelle. Je vous cite de mémoire ce verset de la fin du livre de Bereshit, « Vaïchi Yaakov Beret Mitzrayim, Shva Eskeshana » et ensuite « Vaïchrehu Yaakov, Vaïchrehu Yeme Israël Lamut » Vous avez certainement déjà étudié ce que Rashi cite en Midrash, dit de ce verset. Et je me réfère surtout cette fois au Shlah. C'est-à-dire que Jacob, c'est le nom d'Israël lorsqu'Israël est en Égypte en exil. C'est lorsqu'Israël sort de son exil, et le prototype était son exil chez Laban, lorsqu'il sort de son exil, il reçoit le nom d'Israël. Et après avoir reçu le nom d'Israël, la Torah emploie aussi le nom de Jacob. Ceci est étudié dans le premier chapitre de la Maseret Brachot. Parce qu'il peut y avoir des retombées dans l'identité Jacob, même après le fait que l'identité Jacob ait été hissée à l'identité d'Israël. Et une des équations d'identité de cette différence des deux noms, Jacob-Israël, une d'entre elles, c'est que Israël s'appelle Jacob lorsqu'il est en exil, et Jacob s'appelle Israël lorsqu'il sort d'exil. Et je crois que nous avons vécu quelque chose en allant 2000 ans après l'exil des Juifs, c'est que 2000 ans après, enfin, nous avons retrouvé le nom d'Israël. Nous l'avons vécu à la génération précédente, enfin en 5708, en 48. Le nom d'Israël a éclaté dans le monde, alors que jusque-là, pendant 2000 ans, on nous avait habitués à n'être que le peuple juif, c'est-à-dire les Judéens de l'exil. Et puis, subitement, le nom d'Israël rééclate. C'est Jacob sortant de son exil et étant reconnu comme portant le nom d'Israël. Alors, le verset que je vous ai cité dans la paracha de Vaïchi nous dit ceci. Et Jacob vécut en Égypte 17 ans. Le Shlah en particulier pose la question suivante. Comment la Torah peut-il dire que Jacob a vécu alors qu'il est en Égypte? Vaïchi, Yaakov, les deux mots sont en collision de concepts. Est-ce qu'on peut vivre dans l'exil? Le texte aurait pu, si vous voulez nous donner une information de calendrier, de chronologie, employer un autre terme. Mais lorsqu'on le lit dans l'hébreu du Mikra, que Jacob vit en Égypte, ça pose une question aux commentateurs. Alors, ils répondent par la suite du verset. 17 ans. Et pourquoi il était vivant? Parce que Joseph était avec lui. Et je vous cite que Balatourim, et je re-rentre dans le verset, Balatourim met en évidence que la valeur numérique du mot Vaïchi, c'est 34, et que Jacob a vécu vraiment que les années où Joseph était avec lui, 17 ans dans le pays de Cana, avant que Joseph ait été expédié par les caravanes en Égypte, et 17 ans en Égypte même, c'est 17 et 17, ça fait 34, et donc Jacob a vécu vraiment que 34 ans. Les années de sa vie, c'était tant d'années. Mais le fait qu'il ait vécu, c'est clair le sens du mot ici, c'est parce que Joseph était avec lui. Vous savez, par une petite parenthèse, ça m'a fait formuler une fois une de ces blagues auxquelles je suis habitué, c'est enregistré, j'espère, hein, qu'il y a une perplexité de ce chiffre 17 pour le judaïsme français, il s'est en tout cas à Paris. Où est-ce que se trouve Ahay Anochim Mevakesh? Je cherche mes frères. Est-ce que c'est 17 rue Saint-Georges ou 17 rue Fortuny? Mais dans tous les cas, 17 et 17, ça fait 34. Alors, pour faire bon poids, il y a aussi 19 rue de Téhéran, mais ça c'est 19. En tout cas, pour revenir à notre problème, par le fait que Jacob a vécu en Égypte, alors va Yikrebou, Yéme Israël, les jours d'Israël s'approchèrent de la mort. Pas Israël, mais les jours d'Israël. Il y aurait donc, et là il y a une note de M. Neher qui est très importante, il y aurait donc les Dibre Hayamim, c'est l'expression que l'on emploie pour dire les annales, les paroles des jours, Dibre Hayamim, ce qui se passe dans les jours. Il y aurait donc l'histoire des jours. Et puis, l'histoire des jours peut prendre fin, mais elle se continue dans une dimension qui pour nous a été la dimension de Aharit Hayamim, ce qu'il y a après les jours. Et la dimension du temps de l'exil a été une soupape de survie qui a mené à une restauration du temps d'Israël. C'est-à-dire, si nous étions une nation comme les autres nations, une fois que le temps d'Israël aurait pris fin, il aurait pris fin. Mais voilà qu'il y a un Aharit Hayamim, ce qui vient après les jours. On a l'habitude de traduire Aharit Hayamim les derniers jours. Mais littéralement, c'est il y a le Yamim et il y a Aharit Hayamim, ce qu'il y a après les jours. Et effectivement, dans toutes les prophéties, surtout d'Isaïe, qui emploie cette expression, c'est la prophétie concernant la fin des temps d'exil. Il arrivera à la fin des temps. Le contexte de la prophétie est toujours à la fin des temps d'exil. Ça se passera dans Aharit Hayamim. Je pense que c'est suffisamment clair. Et alors, cette dimension d'éternité que Torah Moshe a donnée au peuple des Avot, eh bien, Aman était incapable de la diagnostiquer, de la comprendre, d'en tenir compte. Voilà comment, si vous voulez, on pourrait comprendre assez facilement et rapidement cette invraisemblance apparente que je vous ai signée. Alors, je vais vous proposer ensuite et encore une fois, ça désigne la personnalité, l'identité de Moïse, ça se branche un peu sur votre question sur Isha Elohim, par la bande, comme exceptionnel. C'est-à-dire, il y a là une sorte de présence d'éternité à travers le temps. Et c'est donc un cas particulier, et donc un cas exceptionnel, mais qui est, comme cela nous a été dit, le modèle de l'identité d'Israël. C'est-à-dire, Moïse a vécu dans l'exemplarité d'une vie exemplaire à l'échelle individuelle, ce qui est finalement la dimension d'identité d'Israël, cette dimension de Netzach, d'éternité, qui avait mis à mal en fait dans le piège de sa propre perplexité. Il cherchait le talon d'Achille d'Israël, et on pourrait l'exprimer à la manière d'une drache de la manière suivante. Si Israël n'est plus attaché à Moïse, alors il peut disparaître. Et quand est-ce qu'Israël n'est plus attaché à Moïse? Le jour de la mort de Moïse. Je voudrais rattacher à cela un autre midrash que nous avons dans les midrashim sur Pourim. C'est que, alors qu'il y avait une panique, je crois, on ne peut pas dire d'autres mots, un autre mot, dans la communauté juive de Suse, la capitale en Perse, Shushan Navocha, à l'annonce de l'édit d'Assuérus que la communauté juive allait être encore une fois dirigée vers une solution finale à la Perse, eh bien, à l'iranienne, on pourrait dire, d'ailleurs, j'ai dit trois manières comment les choses reviennent dans l'histoire, eh bien, parce qu'il était bien évident que, après le nazisme, la seule politique qui a eu le courage de parler de solution finale pour Israël, ça a été les Iraniens de notre temps. C'est énorme comme répétition, si vous voulez, de l'histoire, dans l'indifférence générale, dans l'incrédulité générale, plus exactement. Je pense que, grâce à Dieu, les Irakiens empêcheront peut-être les Iraniens de faire ce qu'ils voulaient, mais ça me rappelle cette caricature de Doche au moment où la guerre entre l'Irak et l'Iran s'est déclenchée. C'est le caricaturiste de Maharif. Alors, il y avait une caricature qui me restait dans la mémoire. Il y avait deux soldats, un Iranien, un Irakien qui se visaient, et puis un petit yoseleh israélien avec son Kovar Tembel qui fait une prière, qui dit « Mon Dieu, qui vise juste tous les deux ?» Donc, pour revenir à notre problème, le Midrash dit ceci, que pendant que toute la communauté juive de Suse était encore une fois dans cette panique, Mardoché, qui était le responsable politique de cette communauté, se balade dans le ghetto et puis passe devant un Talmud Torah. Par la fenêtre, il entend deux petits enfants étudier la Torah et discuter sur le fait de savoir de quelle longueur devait être la gerbe du Homer quand on aura de nouveau un temple à Jérusalem, et le Homer d'entre Pessah et Shavuot, et qu'on apportera la gerbe du Homer au temple. Alors Mardoché a été réconforté et a dit, si pendant qu'il nous arrive ce qui nous arrive, deux enfants du Talmud Torah discutent de cela, c'est qu'il y a effectivement ce que j'appellerais la dimension d'éternité que Moshe a introduit en Israël. Et voilà en tout cas pour ce premier message. Alors pour le temps qui nous restera, je voudrais vous proposer de reprendre le chapitre 3 de Shemot et je vais essayer de mettre en évidence une autre dimension des faits historiques de cette rencontre dramatique entre Moshe et Dieu qui se révèle à lui pour le recommencement de la mission de Moshe dans la troisième période de sa vie. Vous savez que la vie de Moshe Rabbeinu, comme je l'ai signalé, a 120 ans et qu'il a eu trois périodes. Pendant 40 ans, il n'est connu, et nous allons faire l'effort de le connaître comme il est connu officiellement pendant ses premiers 40 ans, que comme le fils adoptif du Pharaon qui, dans sa vie privée, clandestinement, est l'hébreu fils du chef de la tribu de Lévi. Mais officiellement, et j'ai l'habitude de dire, il représente le type limite à l'extrême du juif de diaspora, c'est-à-dire officiellement il est le ministre du Pharaon. Je ne sais pas comment dans le gouvernement actuel il s'appellerait, parce qu'il n'y a pas de juif, par la France, mais au gouvernement précédent, on n'avait que l'embarras du choix. Okay, il est le fils adoptif du Pharaon. Le sort de l'histoire de l'Égypte passe par lui, mais nous savons, parce que nous lisons la Torah, que dans sa vie privée, son identité profonde, camouflée, clandestine, il est l'hébreu par excellence, le fils du chef de la tribu de Lévi, c'est-à-dire l'identité hébraïque au paroxysme, une espèce de tarquise de l'identité hébraïque. Et ensuite, il y a une deuxième période de sa vie, les 40 ans qui passent à Midian. Au bout de la première période de 40 ans, se passe une scène que la Torah nous raconte dans le chapitre 2 sur lequel nous reviendrons. Il est premièrement déçu de l'état de la situation égyptienne, alors il choisit de rejoindre ses frères clandestins, c'est-à-dire les Hébreux. Et puis la deuxième scène, le lendemain, il est déçu de la société des Hébreux en Égypte, et donc doublement déçu, et de la civilisation égyptienne dont il aurait pu être, puisque le porte-parole, comment dire, le porte-histoire. La suite. Et il est évident que l'histoire du monde a changé le jour où Moïse a choisi pour Israël contre l'Égypte. Et il aurait pu choisir, tout ça est théorique et vraiment hypothétique, on refait pas l'histoire à l'envers, mais il est bien évident qu'il portait en lui la capacité potentielle de ces deux histoires du monde, l'une à travers l'Égypte, l'autre à travers Israël. Et finalement, c'est sa décision qui a fait que l'histoire est passée, non pas à travers l'Égypte des pharaons, qui sont restés dans les sables, mais comme Moïse, comme le texte le dit, il a enterré l'Égyptien avec un grand E, Bahol, dans le sable. Notre lecture du mot Hol, c'est profane. Okay? L'histoire du Kodesh, si vous voulez, de la sainteté dans l'histoire du monde, aurait pu passer par l'Égypte, encore une fois, hypothèse gratuite, elle est passée par Israël le jour où Moïse a décidé de rejoindre ses frères. Et c'est a posteriori qu'on sait que ses frères, c'est les Hébreux. Mais ses frères, c'était aussi les Égyptiens. On a fait allusion tout à l'heure à Aram, ça aurait pu être ou l'un ou l'autre. J'ai toujours été frappé par le fait que ce profil, cette équation d'identité, est vécue à des degrés divers et parfois des degrés de paroxysme. J'ai en tête l'exemple de Raymond Aron, etc., de cette identité de double appartenance, mais alors paroxysmale, je ne sais pas comment dire, paroxystique, totalement égyptien et totalement juif. C'est le drame de ce profil d'identité du juif de diaspora, mais surprise, c'est Moïse qui le représente. Et jusqu'à la fin des 40 premières années, il est là, dans cette double identité. Et puis, ça bascule. Il y a une parenthèse de 40 années à Midian. J'en dirai surtout quelques mots. C'est à la fin des 40 ans, donc 80 ans, que va se passer la scène du buisson ardent. Et je vais essayer de mettre en évidence pourquoi il se passe 40 ans jusqu'à ce que, enfin, Dieu se révèle à Moïse à travers la vision du buisson ardent. Et ensuite, les 40 ans pendant lesquels Moïse a dirigé l'histoire d'Israël. Et beaucoup de grands maîtres ont mis en évidence le parallèle qu'il y a entre ces 120 années de Moïse et les 120 années de la vie de Rabbi Akiva. Pendant 40 ans, Rabbi Akiva était le berger des troupeaux de son beau-père futur, Kalva Savoura. Et puis ensuite, pendant 40 ans, il a étudié. Et pendant 40 ans, il a été le grand Rabbi Akiva, qui était l'enseignant de la Torah pour Israël. Il est de même que mon cher Abénou, c'est comme cela a été signalé, le maître de la Torah chez Irkav, c'est Rabbi Akiva, qui, à travers ses élèves, mais déjà lui, est le maître de la Torah chez Valpé. Et c'est assez frappant. Et je referme cette parenthèse. Alors, nous allons lire ce que dit Rashi sur la fin du verset 7 du chapitre 3. En mettant en évidence, c'est une question qui a été posée de ce côté tout à l'heure, mais en la mettant en évidence sur un... Oui, j'ai oublié comment elle s'appelle. Elle n'est pas là. Elle était assise là. C'était ta promotion ? Je sais qu'elle est originaire de Suisse, mais son nom est changé. Evelyne Soussman, Nahol. C'est elle qui avait posé cette question. Ami Bnei Israël, Nahol. Nous allons la retrouver dans une autre forme. Vayomer Hashem, et Dieu dit à Moïse, donc à l'intérieur de l'ensemble des événements de du Sné, Rao Raïti et Oni Ami, Asher Ben Israël. J'ai vu, et ici la formule hébraïque, Rao Raïti, si nous étions en étude de littérature française, je dirais que ça s'appelle une redondance. Mais on voit très mal le texte de la Torah faire des redondances. Rao Raïti, ça veut dire qu'il y a une accentuation de l'affirmation qui est donnée ici. Dans le sens, je suis là, un certain nombre de commentateurs, j'ai accepté, Rao Raïti, j'ai accepté de voir. Et nous verrons les implications de cela. Voir, j'ai vu. Okay. Et Oni a mis la misère de mon peuple à Asher ben Mitzrayim, qui se trouve en Égypte. Et là, j'aurais tendance à reposer la question tout à l'heure sous la forme de notre verset. Y a-t-il un autre peuple qui ne serait pas en Égypte ? Et si on me dit ça grammaticalement, de mon peuple qui est en Égypte, alors ça impliquerait qu'il y aurait un autre peuple qui n'est pas en Égypte. Hypothèse absurde, une hypothèse de lecture, je montrerai que l'exégèse est difficile ici. Vetsa'akatam shamarti, je reviendrai donc, et ces clameurs d'angoisse, je les ai écoutées, mipene nogesav, par ses persécuteurs, qui a darti et mahova, car j'ai connu ses douleurs. Alors prenons Rashi sur qui a darti et mahova. Rashi dit ceci. On doit comprendre l'expression qui a darti, car j'ai connu, dans le sens que ce même mot, dans un autre verset, va yedar elokim. Et Dieu connu. Et ce verset connu quoi ? Ce verset, le contexte indique, il a connu la souffrance dans la persécution d'Égypte, Et vous rappelez, pour ceux qui ont encore le récit de la Agadat Pessah en tête, Vayeda Elohim, Zot Rishut de Vecher. Ça veut dire jusqu'où va cette persécution, cette. Il y a un mot en français qui est encore beaucoup plus précis, qui signifie une persécution gratuite. Enfin, on a encore en tête tout ce qu'on réentend avec le procès contemporain de ce qui se passe à Jérusalem. Et c'est cette chose invraisemblable que. Bon, toute persécution est invraisemblable et injustifiable, mais encore une fois, ça nous a remis en mémoire, et c'est le caractère gratuit, considérable, qui dépasse tout. Et la Agada de Pessah le montre en disant Zot Rishut de Vecher, c'est-à-dire des souffrances inutilement aggravées. Vous comprenez pourquoi je ne traduis pas, je ne rentre pas dans les détails. Entendez-le en hébreu. Kenoma. Et Rashi semble avoir un souci dans son explication. C'est comme pour dire qui, samti lev lehitbonen, j'ai prêté attention pour comprendre. Et veladat, et pour connaître, et machovav, ses douleurs, velo, et elamti enai, et je n'ai pas fermé les yeux, je n'ai pas caché mes yeux, velo a atum et oznai, je n'ai pas fermé mes oreilles, ni tsahakatam, clameur, de leur cri. Alors, je posais la question de cette manière. Pourquoi ce qui est dit là à Moïse? Alors, en exégèse classique, ça veut dire qu'il faut mettre en évidence l'implication inverse que Rashi veut évacuer. Et je formule tout de suite l'hypothèse de lecture. Ça veut dire, toi Moïse, tu n'as pas voulu écouter et comprendre leur misère, mais moi, je l'ai compris. Et je reprends maintenant le verset. Vayomer Hashem, et on verra ce que ça veut dire. Vayomer Hashem, et Dieu dit à Moïse, Raou Raïti Oni Ami Hashem Israël. J'ai vu et j'ai accepté de voir la misère de mon peuple qui se trouve en Égypte. Hypothèse de lecture. Cette misère, Oni, Moïse n'avait pas accepté de la voir et de la comprendre. Lorsque dans la deuxième scène que je vous ai rappelée tout à l'heure, lorsqu'il est déçu de l'état de la société hébraïque en Égypte, et vous rappelez quelle est cette scène, on va y revenir sur le verset s'il nous reste du temps. D'abord, il voit un Égyptien frapper un Hébreu, alors il intervient, il frappe l'Égyptien. Le lendemain, il voit un Hébreu frapper un Hébreu. Vous vous rappelez de cela? Alors il s'en fout. Et c'est ce que j'exprime de cette manière. Il est d'abord déçu de l'état moral de la civilisation égyptienne, et on peut dire que ce n'est pas pour des raisons politiques, de génie culturel, qui préfère les Hébreux à l'Égypte. Il va choisir ses frères chez les Hébreux, pas chez les Égyptiens, à cause d'un critère d'option morale. On pourrait analyser très longuement ce que je viens de dire là. C'est-à-dire, c'est au fond la perplexité intellectuelle et spirituelle de ce profil de juif de diaspora, de double allégeance dont je vous parle. En particulier, ceux qui sont engagés dans l'avenir historique du pays étranger dont ils sont les juifs, et engagés dans leur fidélité aux valeurs d'Israël dont ils sont les héritiers. C'est-à-dire que finalement, s'il y a option, ce n'est pas tellement concernant le contenu proprement de civilisation qui serait en question. On préférerait la civilisation humaine à travers le style égyptien ou la civilisation humaine à travers le style hébreu. Ce n'est pas tellement cela qui est le vrai problème. Le vrai problème, c'est que Moïse a choisi Israël et pas l'Égypte pour des raisons d'ordre moral, parce qu'il est du côté du frappé, pas du frappant. Et vous voyez, comme dit le Midrash, en parlant d'autre chose, du Nirdaf et pas du Rodé. Et vous voyez pourquoi il est déçu doublement. Il est déçu de l'Égypte parce que l'Égypte est persécutée, l'Égyptien est persécuté. Et il est déçu de l'Hébreu parce qu'il retrouve le même défaut moral dans la société hébraïque en Égypte où le frère frappe le frère. Cette analyse, je vais essayer de la conduire en la reprenant un peu dans la contemporanéité culturelle de ce profil d'identité diasporique dont je parle. Nous avons assisté à une sorte d'option très analogue de la part d'énormément d'élites intellectuelles juives qui s'étaient déjudaïsées, qui s'étaient vraiment, ils avaient oublié qu'ils étaient le fils du chef de la tribu de Lévi, et ils étaient vraiment mis au service du pharaon de leur temps. Et à cause de la persécution anti-juive sont revenus du côté d'Israël. Et nous allons voir avec quelles hésitations. J'insiste là-dessus, ce n'est pas vraiment pour des raisons d'ordre spirituel, culturel, intellectuel, que nous avons vu tous ces juifs déçus de ce que l'Autriche avait fait à ses juifs, déçus de ce que la Russie avait fait à ses juifs, ou la Pologne, etc., revenir du côté d'Israël, et encore une fois avec les obstacles, les hésitations et les degrés. C'est parce qu'ils ont été empoignés par une évidence que la civilisation au service de laquelle ils s'étaient donnés était immorale. Et c'est pour des raisons d'ordre moral qu'ils ont voulu chercher à se détacher d'elle. Il y a toute une population d'intelligentsia juive contemporaine que j'appellerai d'un mot assez récapitulatif, mais il faudrait nuancer tout cela, qui ont été déchus de leur option de gauche à la suite de ce diagnostic que finalement les idéaux auxquels ils croyaient se sont disqualifiés moralement, en particulier lorsque s'est produit les derniers épisodes de la guerre du Vietnam. Mais c'est déjà au temps du Biafra. Vous avez énormément de juifs qui ont quitté leur engagement gauchiste pour se tourner du côté de la Torah. Et je crois qu'on peut le dire maintenant avec assez d'évidence, mais c'est un mouvement qui se décelait déjà, je parle surtout de la France, que nous connaissons le mieux, en Amérique avec chose très analogue, qui déjà depuis une vingtaine d'années s'annonce. De tous ces intellectuels, philosophes, déçus de leur option de civilisation occidentale, à travers les options politiques gauchistes, et parfois extrême-gauchistes d'ailleurs, et dont on associe aujourd'hui le nom avec une réflexion sur les sources de la Torah. Et en général, ils sont traducteurs de textes de Torah. J'en dirai pas plus, vous avez reconnu, c'est un événement, un fait de société important et qui, une fois, méritera à être étudié et analysé. Alors, il me semble qu'il y a quelque chose de très analogue, j'y reviens, et dans ce changement d'orientation et d'option, et en même temps des hésitations et des obstacles que je vais essayer de mettre en évidence dans ce que la Torah nous raconte à ce sujet. Déçu de l'Égypte, normalement, on se serait attendu à ce qu'il entre vraiment dans sa communauté et qu'il prenne la tête de la révolte. Non, il est déçu aussi de sa communauté, il s'enfuit, ou pas n'importe où, et le texte nous montre avec un raccourci d'une extraordinaire densité, il sait où il va à Midian. Et avec une sorte de tentation de faire surgir un peuple qui serait le véhicule des valeurs hébraïques à travers Midian, parce que déçu des Hébreux qui sont en Égypte. Est-ce que ça va jusque-là? Et nous allons immédiatement relire ce texte. Alors, réécoutons notre verset 7, il va prendre un sens encore plus précis, enfin, un harmonique de sens plus précis, grâce en particulier à la lecture de Rashi. Je vous propose la lecture suivante. Raou Raïti et Oni Ami Asher Ben Israël. J'acceptais de voir, de comprendre la misère de mon peuple qui vient de ce qu'il était en Égypte. Ce que Moïse apparemment ne voulait pas admettre, c'est que l'état dans lequel se trouvait le peuple venait de ce qu'il était en Égypte. Et nous sommes aidés par les Tarmim de la Massora. Regardez bien. Et Oni Ami, Marir Tarha, je vous dis les Tarmim en Ritzfarad, c'est, comment on le dit en rite ashkenaz, Tipra, Et Oni Ami, la misère de mon peuple, Asher Ben Israël. Et le sens qui apparaît là, c'est qu'il vient de ce qu'il est en Égypte. C'est-à-dire la persécution l'a rendu